Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 29 mai 1402 du calendrier iranien, 21 octobre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Des manifestants dans divers pays du monde expriment leur solidarité avec les Palestiniens. Chargement d'une cargaison d'aide humanitaire iranienne vers la Palestine. L'attaque d'Israël contre l'église de Gaza suit la méthode terroriste de Daesh, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Et le chef d'état-major des forces armées iraniennes met en garde contre le soutien américain aux crimes d'Israël à Gaza. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La première cargaison d'aide humanitaire du Croissant Rouge iranien au peuple palestinien, passant environ 60 tonnes contenant du matériel médical et sanitaire, a été chargée et il est prêt à être envoyé en Égypte à l'aéroport de Téhéran. Cette cargaison parviendra à la population de Gaza dès que le terminal de Rafah sera ouvert pour acheminer l'aide internationale, avait annoncé vendredi soir le responsable du Croissant Rouge iranien. Selon les informations, le terminal de Rafah a été rouvert pour acheminer une petite quantité d'aide aux Palestiniens sous blocus. En effet, le terminal de Rafah est rouvert pour acheminer une petite quantité d'aide désespérément nécessaire aux Palestiniens qui manquent de nourriture, de médicaments et d'eau potable dans le territoire assiégé par le régime israélien. Des camions de premier secours traversent le poste frontière de Rafah depuis l'Égypte jusqu'à Gaza. Le convoi d'aide humanitaire, qui est censé entrer aujourd'hui, comprend 20 camions transportant des médicaments, des équipements médicaux et une quantité limitée de produits alimentaires, a indiqué samedi le bureau de presse du Hamas dans un communiqué. Le ministre iranien des Affaires étrangères a comparé les atrocités commises par le régime israélien à celles perpétrées par des groupes terroristes comme Daesh. Le diplomate iranien Hossein Amir Abdullahian a condamné vendredi le bombardement israélien de l'église grecque orthodoxe de Gaza, où se réfugiaient au moins 500 musulmans et chrétiens. Au moins 16 personnes ont été tuées dans l'attaque. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Barghouti, a déclaré au ministre turc de la Défense que le soutien militaire américain au régime israélien, dans le contexte de la guerre contre Gaza, compliquerait la situation. Le général de division, Mohammad Hossein Barghouti, a eu une conversation téléphonique avec le ministre turc de la Défense, Yaşar Güler, au cours de laquelle ils ont discuté des récents bombardements sanglants d'Israël qui visaient à intensifier les pressions sur le peuple palestinien, la résistance et ses alliés. Des mesures sérieuses doivent être prises pour empêcher la poursuite des attaques barbares du régime israélien contre les civils à Gaza et pour leur fournir une aide humanitaire, notamment de la nourriture et des médicaments, a encore déclaré le haut général iranien lors de cette conversation téléphonique. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a libéré deux captives américaines pour des raisons humanitaires, à la suite d'une médiation du Qatar. Abu Obeida, porte-parole des brigades Al-Qassam, a déclaré vendredi qu'une mère américaine et sa fille avaient été libérées pour prouver à la nation américaine et au monde que les allégations formulées par le président Joe Biden et son administration fasciste sont sans fondement. Abu Obeida dit qu'ils envisagent également la libération d'autres étrangers capturés. Des responsables du Hamas ont déclaré plus tôt que près de 200 personnes avaient été capturées lors de l'opération Tempête d'Al-Aqsa le 7 octobre. De son côté, Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré qu'il s'agit d'un geste de bonne volonté de la part du Hamas pour prouver à toute la communauté internationale que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, a-t-il indiqué à la chaîne Al Jazeera. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah affirme avoir ciblé 3 bases israéliennes avec des munitions à guidage de précision. Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré que les frappes avaient eu lieu dans la région de Kafar Chouba et des fermes de Sheba. Toutes les frappes ont touché les cibles désignées. Cela s'est produit après qu'Israël a mené des attaques contre le sud du Liban. La zone est le théâtre d'échanges de tirs depuis le 8 octobre, au lendemain d'une opération palestinienne majeure contre Israël. Et enfin, les forces de renseignement iraniens ont réussi à identifier et à arrêter un chef terroriste de Daesh dans la province iranienne du Sistan et Baloutchistan, au sud-est de l'Iran, près de la frontière avec le Pakistan. Le terroriste, identifié uniquement par ses initiales AH, a été capturé à la suite d'opérations de renseignement tant en Iran qu'à l'étranger. Le terroriste envisageait de recruter des agents, d'établir des cellules terroristes, de former et d'entraîner une équipe d'assassins et de mener des actes de sabotage et des opérations terroristes dans la province, indique le rapport. Il avait créé plusieurs comptes sur les plateformes de médias sociaux et a réussi à constituer des équipes composées de ressortissants étrangers et de citoyens iraniens dans certaines régions de la province iranienne du Sistan et Baloutchistan. Les habitants des pays à majorité musulmane ont manifesté vendredi pour montrer leur soutien aux Palestiniens de Gaza, exprimant la libération de la Palestine et la fin urgente des raids aériens israéliens brutaux. Des habitants de divers pays comme l'Iran, l'Égypte, la Malaisie, la Jordanie, l'Irak, le Liban, la Turquie, la Syrie, le Yémen et le Qatar ont manifesté ce vendredi pour dénoncer les crimes israéliens à Gaza, où les raids aériens de l'occupation israélienne ont déjà coûté la vie à plus de 4000 Palestiniens. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale égyptienne, le Caire, et d'autres grandes villes du pays, exigeant l'ouverture du passage de Rafah pour permettre l'aide aux Palestiniens qui sont sous le siège et les bombardements incessants d'Israël depuis 14 jours. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Tahrir au Caire malgré un important déploiement des forces de sécurité, appelant Israël a cessé ses bombardements sur la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Les manifestants réclamaient l'ouverture du point de passage de Rafah à la frontière entre l'Égypte et Gaza pour permettre l'arrivée de l'aide à la bande de Gaza. Le passage frontalier est actuellement la seule porte d'entrée vers Gaza, assiégée par le régime sioniste. Nous voulons que la frontière soit ouverte immédiatement pour que l'aide puisse parvenir aux habitants de Gaza, a déclaré un manifestant. Dieu est vivant, la voix du peuple est toujours vivante, la voix de la résistance est toujours vivante, c'était le slogan des manifestants égyptiens. Les gens scandaient également des slogans contre le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi, exigeant la fermeture de l'ambassade israélienne et l'expulsion de l'ambassadeur du régime d'occupation. En Jordanie, des milliers de personnes ont défilé dans la capitale Amman et ailleurs dans le pays, scandant des slogans en soutien aux Palestiniens et au Hamas. Quelques 2500 personnes se sont rassemblées sur une autoroute à Amman, en route vers les frontières avec la Cisjordanie occupée. La police a bloqué les routes menant à la frontière pour empêcher les gens de se diriger vers les territoires occupés palestiniens. Les manifestants demandaient aux autorités de les permettre à rejoindre le combat aux côtés du Hamas. Plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées près de l'ambassade israélienne à Amman, scandant des slogans contre l'entité sioniste. La police anti-émeute jordanienne a bloqué les routes menant au complexe fortifié de l'ambassade israélienne pour retenir les manifestants rassemblés autour de la mosquée Kolati, située à proximité dans la ville. D'énormes manifestations ont eu lieu dans la capitale du Yémen, Sanaa, et dans d'autres gouvernorats yéménites pour exprimer leur colère et leur condamnation du massacre israélien à Gaza. Les manifestants yéménites ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes soutenant le droit des Palestiniens à défendre leurs terres, leur dignité, leurs lieux saints islamiques et à les libérer de l'occupation israélienne. Les manifestants ont également scandé des slogans démontrant leur ferme soutien au peuple palestinien, sa résistance courageuse et à sa volonté de tout sacrifier pour libérer la Palestine et la ville occupée de Quds. La Turquie, qui a déclaré 3 jours de deuil pour Gaza, a vu des milliers de personnes manifester contre les atrocités commises par Israël dans la bande de Gaza, devant les mosquées d'Istanbul et d'Ankara, après les prières du vendredi. Les manifestants à Istanbul ont montré leur solidarité avec les Palestiniens en arborant des drapeaux turcs et palestiniens, en brandissant des pancartes et en criant des slogans. Certains manifestants ont également brûlé une effigie du premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, et un drapeau israélien.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débat du jour consacré toujours aux évolutions palestiniennes et cela tristement. Depuis deux semaines, au moins deux semaines, la bande de Gaza est sous un blocus total avec une machine de guerre de tuerie du régime sioniste. Pour vous donner un dernier bilan de morts qui dépasse les 4000, dont 1500 enfants selon un bilan toujours provisoire. On va s'intéresser à ce sujet et aux initiatives potentielles qui peuvent sauver et aider les Gazaouis, les Palestiniens, pour sortir de cette tuerie, de barbarie. Tout de suite, un petit en image récit. Restez avec nous. Merci.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI à imposer un embargo pétrolier et d'autres sanctions à Israël et à expulser tous les ambassadeurs israéliens. Hossein Amir Abdullahian est arrivé mercredi 18 octobre à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour assister à une réunion extraordinaire du comité exécutif de l'OCI pour examiner la situation actuelle de la bande de Gaza. Téhéran appelle un embargo immédiat et complet sur Israël par les pays musulmans, y compris des sanctions pétrolières, en plus d'expulser les ambassadeurs israéliens, annonce le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. Lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'OCI, Hussein Brahim Taha, le plus haut diplomate iranien, a également appelé à la formation d'une équipe d'avocats musulmans pour documenter les crimes de guerre commis par l'entité sioniste à Gaza. À son arrivée à l'aéroport de Jeddah, Hossein Amir Abdullahian a condamné la frappe sanglante contre un hôpital à Gaza, exprimant l'espoir d'une action mondiale pour mettre fin au génocide des Palestiniens par le régime infanticide. Ce crime est inacceptable pour les musulmans du monde entier et pour ceux qui ont une conscience éveillée, a estimé le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a déclaré qu'il avait contacté son homologue saoudien le soir même de l'attaque au sujet de la nécessité d'une action diplomatique forte pour mettre un terme immédiat aux crimes de guerre commis par Israël contre les civils à Gaza et à leur déplacement forcé. Il a appelé aussi à œuvrer pour ouvrir des couloirs humanitaires pour faire acheminer nourriture, médicaments et carburants vers l'enclave palestinienne assiégée. Le massacre de l'hôpital de Gaza s'inscrit dans un contexte de préoccupations humanitaires croissantes liées à l'interruption par Israël de l'approvisionnement en eau, en nourriture, en carburant et en électricité de la bande de Gaza qui compte plus de 2 millions d'habitants.
J'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Aïssar Midani qui nous rejoint depuis Damas. Bonjour Madame.
Bonjour, bonjour.
Merci.
Merci de votre invitation. Bonjour à Monsieur Amrouni.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Mes salutations également à adresser à Imad Amrouni qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à notre chère invitée, Madame Madani de Damas.
Voilà, Gaza est sous blocus total, pour reprendre les mots du ministre israélien de la guerre, depuis 16 ans, depuis 2007. Il y a des bombardements atroces, personne n'y échappe, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les journalistes, les humanitaires. Alors, face à ces atrocités, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdullahian a appelé au boycott du régime sioniste qui continue toujours ses bombardements meurtriers sans continuité, sous silence complice des médias et fort du soutien de ses alliés occidentaux. Amir Abdollahian appelait à des sanctions politiques et économiques contre Israël. Je vous donne la parole, Madame Midani. Comment réagissez-vous face à cette situation et quelles sont les initiatives envisageables pour mettre fin à cette machine de guerre de tuerie israélienne?
Effectivement, cette machine de guerre la plus meurtrière, elle s'attaque aussi aux hôpitaux, aux lieux de refuge de tous les enfants, et s'attaque aussi aux écoles et à toutes les institutions qui pourraient faire quelque chose, mais aussi ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé tous les moyens de vivre. En fait, par ces actions criminelles, ce qu'ils voudraient, c'est enlever les moyens de vie aux Gazaouis, aux habitants de Gaza et aux militants et aussi aux civils pour que tout le monde puisse partir et quitter. On voit profiler le plan qui a été étudié par eux et par les Israéliens et par les Américains, qui a été d'ailleurs discuté pour faire évacuer Gaza, les Gazaouis, pour les amener au Sinaï. Fort heureusement, ce plan a été rejeté catégoriquement, aussi bien par les Égyptiens que par tous les pays de la région, c'est-à-dire que aussi la Jordanie. Et je voudrais aussi quand même ajouter, il n'y a pas seulement que le Gaza qui est sous exaction israélienne, mais c'est toute la Palestine, les villes de Jenin, de Tol Karem, de Naplouse, etc., sont sous agression tous les jours. D'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu des centaines de violations de domiciles et de destruction de domiciles et d'assassinats et d'arrestations, aussi sous l'œil complice de toutes les organisations internationales, comme tous ces pays occidentaux qui se pavanent de défense des droits de l'homme, etc. Mais comme pour eux, on a l'impression que les seuls hommes sur Terre sont tous les autres, et ils ne valent rien. Ce sont les Israéliens, des colons occidentaux, il faut le dire, et il faut absolument pas de la... absolument aucun droit à s'implanter dans cette région. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est usurper les terres et s'approprier les terres d'autrui, les terres des Palestiniens. Donc voilà, et eux, ils les appuient. Donc c'est l'esprit colonial dans toute sa splendeur et dans toute son horreur, je dirais. Alors, le recours à des sanctions, effectivement, mérite des sanctions, et il faudrait effectivement mobiliser toutes les instances internationales et tout pour faire pression sur ces instances qui sont l'ONU et toutes les institutions de l'ONU, sous pression américaine. Il faut les et non seulement à appliquer des sanctions, d'abord il faut briser ce blocus Gaza et contre toute la... Effectivement, les détenus aussi, qui aujourd'hui sont l'objet d'exactions particulières, parce que la rage israélienne sur les détenus, leur casser les mains, ils les ont transférés dans d'autres prisons qui sont dans le désert, où ils les mettent à 30 dans une cellule qui contient 6 ou 7. Hein. Et on les prive de nourriture, on les prive de contact, on les prive de leurs propres affaires personnelles. Donc tout ça, c'est une horreur. C'est vraiment une créativité dans l'horreur qu'on n'a jamais vue. C'est du satanisme pur et simple. Donc il faudra effectivement réussir à mobiliser toutes les instances internationales, tous les pays du monde, mais aussi on voit que tous les peuples du monde aujourd'hui, malgré les interdictions, manifestent massivement dans les rues pour soutenir le peuple palestinien. Il faut dire quand même que c'est le seul peuple aujourd'hui sur Terre, hein, qui est encore sous colonialisme, sous un joug colonial, et sous cette machine d'extermination horrible qui est le sionisme, l'américano-sionisme, je peux dire, et de l'OTAN aussi.
Merci. Merci beaucoup, Esther Midani. À vous et Madame Rouni, alors il est nécessaire d'imposer, comme vient d'en parler Madame le docteur Midani, d'imposer des sanctions politiques et économiques aux responsables du régime sioniste pour mettre fin à cette machine illogique, barbare de tuerie et avant tout mettre fin au blocus total des Gazaouis. Comment réagissez-vous ?
D'abord, nous devons saluer la bravoure des combattants palestiniens qui continuent à s'opposer, à résister face à l'armée sioniste, face à l'armée américaine et face au soutien occidental à tous ces massacres, à ce génocide à ciel ouvert. Malheureusement, Gaza, aujourd'hui, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. On tue les femmes, les enfants, on massacre tout le monde. Hier soir, on a bombardé une église. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils ont bombardé l'hôpital chrétien. Et hier soir, une église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette armée, elle n'est ni juive, ni, israélienne. C'est une armée satanique, occidentale, sioniste. Elle tue les musulmans, les chrétiens et les juifs. Donc, c'est pour cette raison. On a des millions partout dans le monde, des millions, je pèse bien mes mots, qui sortent tous les jours dans tous les pays du monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Afrique, en Orient, tout le monde est avec la Palestine. Tout le monde demande un cessez-le-feu. Tout le monde demande d'arrêter les massacres. On ne peut plus voir, tous les cinq minutes, il y a un enfant palestinien qui meurt. Comme elle a dit, Madame Madani, ce n'est pas simplement la bande de Gaza, il y a la Cisjordanie, il y a les Palestiniens du 48. Donc aujourd'hui, il faut d'abord avoir la possibilité d'avoir un cessez-le-feu. Nous demandons au président Macron, le président Macron va peut-être dans 2-3 jours aller aussi donner allégeance à Netanyahou, mais on lui demande, parce que la France elle a joué toujours un rôle positif dans la question palestinienne, elle a aidé les Palestiniens, elle a soutenu la Palestine, elle a soutenu financièrement la Palestine. Aujourd'hui, la position de la France, ce n'est pas la position historique. Donc, il faut que M. Macron demande un cessez-le-feu et protège la population civile palestinienne, gazaouite. Il faut cesser de parler de Gaza comme un camp d'une milice qui s'appelle Hamas. Parce que c'est ce qu'ils ont essayé dans leurs médias de dire, c'est la guerre entre Hamas et l'État israélien. Ce n'est pas la guerre entre Hamas et l'État israélien. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre à ciel ouvert d'une armée des criminels face à des civils palestiniens. C'est ça la réalité. Donc il faut qu'on va plus dans le droit international. Il faut demander aux instances de l'ONU, par exemple, mais aussi de l'Union européenne, de prendre leurs responsabilités, parce que c'est certain que M. Netanyahou va être jugé par les Israéliens d'abord, et il va être jugé par les autres, mais aussi Biden, il va être jugé, mais aussi Macron va être jugé s'il ne fait rien. Donc tout le monde est complice du sang palestinien, tout le monde est complice des enfants qui meurent tous les jours. Là, on est en train de parler avec vous, il y a des enfants qui vont mourir. Donc, si vous voulez, on rentre dans l'absurdité. On n'est plus dans une guerre. On est dans une absurdité, dans une criminalité, dans un acte quotidien de massacre acharné satanique. C'est ça, Satan. Celui qui ne croit pas à Satan, aujourd'hui, Satan, on voit la partie de Satan, Hezbollah Shaitan, comme c'est dit dans le Coran. Donc, c'est important de sauver les populations palestiniennes. Il faut aider la Palestine. Il faut aider les civils palestiniens. Et on voit qu'hier, c'était magnifique en France. Il y avait des milliers de Français, et je pèse bien mes mots, c'est des Français, ce ne sont même pas des Arabes ou des Maghrébins ou des Africains. Ce sont des Français de souche française qui sortent, qui se plantent Israël, assassin, Macron complice. Donc il faut arrêter la machine de guerre, on peut l'arrêter facilement, en 24 heures, on peut arrêter cette massacre, mais si... Il décide, parce que M. Biden, apparemment, il décide de continuer. Il a décidé le transfert des Gazaouis vers la Sinaï. Et ça, s'il décide de continuer la guerre, eh bien cette guerre va être une vraie guerre et va être des massacres partout. Et donc on va entrer dans une confrontation régionale. Tout le monde ne veut pas ça. Tout le monde veut le cessez-le-feu. À part Biden, lui, il veut continuer le massacre.
Merci beaucoup, Madame Rouni. Assar Midani, Téhéran a appelé à un embargo immédiat et complet sur Israël par les pays musulmans, une mobilisation à l'échelle de l'humain islamique, y compris des sanctions pétrolières, en plus d'expulser les ambassadeurs israéliens des pays musulmans. Alors, réclamé, annoncé par le ministère iranien des Affaires étrangères, comment réagissez-vous? Serait-ce possible et comment vous voyez la perspective d'une telle mobilisation?
Ben, je trouve que c'est effectivement un excellent appel, effectivement, parce qu'il faut effectivement boycotter cet État raciste, fasciste, comme dans le temps on avait boycotté l'Afrique du Sud. Hein. Et on a bien réussi, les peuples du monde, les pays du monde ont bien réussi à, effectivement, en appliquant ce boycott et cette, contre l'Afrique du Sud, à résoudre les problèmes de l'apartheid dans ce pays. Et là, il faut effectivement que tous les pays du monde s'y mettent et qu'ils ouvrent les yeux. Bon, il faut quand même rappeler que les pays musulmans, aujourd'hui, ils sont les deux tiers de la planète, quand même. Hein. Les deux tiers de la planète, si on leur ajoute les pays de l'Amérique latine, si on ajoute la Chine, la Russie, etc., tous ces pays qui refusent l'hégémonisme et le diktat américano-sioniste, hein, bon, on trouve quand même qu'il y a plus de 80% du monde qui est effectivement aux côtés des Palestiniens. Et c'est quand même énorme qu'on ne puisse rien faire pour stopper cette machine. Et ça, d'un côté. Et d'un autre côté, moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose qui est très important. Il ne s'agit pas aujourd'hui, devant l'ampleur des crimes, de dire, OK, on cesse le feu et on revient à la situation d'avant. Il est hors de question de revenir à la situation d'avant. Il est important de reconnaître le droit des Palestiniens, de faire valoir aussi et de briser ce blocus contre la Palestine et qu'il y ait tout de suite des solutions. Effectivement, ce n'est pas seulement un cessez-le-feu et qu'on revienne à une situation d'avant. Non, il faut continuer dans le sens des Palestiniens, dans le sens de la libération de la Palestine et dans le sens d'une justice, en fait, parce que tout ça... Tout ce qui se passe, c'est aussi le résultat d'une injustice totale qui a été créée par les Britanniques, les Français et les Américains en 1916 déjà. Et ils ont donné la terre des Palestiniens, soi-disant, la terre du pays de Palestine à des soi-disant un peuple qui n'a pas de terre et qui était rien d'autre que des émigrés de tous les pays. Et c'était aussi, il faut le dire quand même, et je le répète souvent sur votre plateau, que c'était des bandes terroristes qui ont attaqué et massacré les Palestiniens de manière à prendre leur terre et à les chasser de leur terre. Donc c'était les Irgun, Haganah et Shtem. Et puis ils continuent d'ailleurs dans cette même logique de terrorisme à extermination, massacre après massacre, tuerie après tuerie, de manière à pousser les gens à l'exode, à partir, à fuir cette violence. Et après, ils vont dire « Ah ben les Palestiniens nous ont laissé leur terre et les Palestiniens nous ont donné leur terre, etc. » On nous ont vendu, ils disent encore, c'est en fait une abjection. Il y a tout un tas d'histoires qui sont racontées, qui sont des fausses histoires sur la colonisation de la Palestine, et ce n'est rien d'autre qu'une colonisation avec déplacement de la population. Donc il est important aussi, au lieu avec le cessez-le-feu, de dire on veut quand même une solution juste pour les Palestiniens qui se battent pour leur propre libération.
Merci beaucoup. Et Madame Rouni, on poursuit jamais les autorités israéliennes pour leurs crimes de guerre manifestes. Par contre, il continue ses crimes de guerre manifestement, ouvertement. La tête haute, disons. On assiste également au déplacement des autorités occidentales alliées qui sont venues et qui sont en manière d'encourager ce régime infanticide. Alors, pourquoi on n'arrive jamais à lancer une enquête judiciaire efficace et concrète contre ces autorités? Et désormais, on parle. Et serait-ce efficace, d'après vous, cette mobilisation à cette fin?
Heureusement, aujourd'hui, le mouvement international sioniste il est dévisagé. Bas les masques, c'est fini. C'est-à-dire, le mouvement international sioniste, il se mobilise. Je l'ai dit plusieurs fois avec vous que Israël n'est pas colonisé la Palestine. Elle n'est pas colonisée par des Juifs. Elle est colonisée par des Occidentaux. Donc, les colons blancs qui colonisent la Palestine ne sont pas juifs. C'est juste, ils ont créé cette idée historique qui n'existe même pas, même dans la Torah, elle n'existe pas. Et il faut bien noter, c'est la première fois, moi-même je l'ai constaté, il y a de plus en plus, ici en France, des co-citoyens de confession juive qui viennent avec nous, qui soutiennent la Palestine, ils sont anti-sionistes. Il y a deux jours, des mouvements anti-sionistes juifs aux États-Unis, ils sont entrés dans le Congrès américain. Donc il y a un mouvement au sein même des juifs dans le monde qui se lève et qui disent « Nous, on n'a rien à voir avec cette entité sioniste ». Et donc ça démasque les pouvoirs aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre. Parce qu'on a l'impression que le Premier ministre britannique, il va en Israël pour protéger les juifs. Ou M. Macron, il veut protéger les juifs. M. Macron veut protéger les intérêts des sociétés multinationales françaises. M. Biden protège les sociétés minéraux, gazeux, pétroliers américaines. Ils veulent le pétrole de Gaza, ils veulent le gaz de Gaza. Ils ne protègent même pas les juifs. Ils s'en fichent des juifs. Et ils l'ont brûlé, ils l'ont gazé, ils l'ont mis dans les fours il y a 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas les Arabes et les musulmans et les Iraniens qui ont mis dans les fours 6 millions de juifs. C'est les Allemands, c'est les Français, c'est les Britanniques, ce n'est pas nous. Donc il faut rappeler ça, il faut rappeler que les mêmes qui ont fait le Shoah en Allemagne, ils sont en train de faire le Shoah à Gaza et ils vont faire bientôt le Shoah en Israël. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on a un ennemi dévisagé. Ce n'est plus les Juifs en face, c'est les Occidentaux en face. Et ça, c'est une nouvelle donnée. C'est pour cette raison qu'on a toujours dit, mais pourquoi ils ne sont jamais jugés? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on leur donne carte blanche pour massacrer les Palestiniens? Parce que ça arrange tout le monde de dire, voilà, regardez, les Juifs massacrent les musulmans. Avant, ils disent, Daesh, les musulmans massacrent les chrétiens. Après, ils vont dire, les chrétiens massacrent les musulmans en Irak, et vice-versa. En fait, il n'y a ni musulmans, ni chrétiens. Il y a des sociétés multinationales qui ont des armées, qui ont une minorité qui gouverne le monde et qui massacrent l'humanité. C'est ça aujourd'hui. On n'est même plus face à des États. On n'est même plus face à des sociétés. Comme l'a dit Mme Madani tout à l'heure, l'opinion publique internationale, elle est contre la guerre. Elle est avec la Palestine. Et en même temps, on n'arrive pas à arrêter cette guerre. Donc, qui dirige cette guerre? C'est l'Amérique. C'est les Occidentaux. C'est les sociétés multinationales. C'est Total et bien d'autres. Donc, ceux qui tuent le musulman, tuent le chrétien et tuent le juif. Il faut arrêter nous aussi, de montrer comme si c'est une guerre de religion, comme si c'est une guerre entre juifs et musulmans. Ce n'est pas une guerre entre juifs et musulmans, comme les croisades. Les croisades, ce n'était pas une guerre entre chrétiens et musulmans. C'était une guerre entre empires. Et donc, la même chose aujourd'hui. M. Biden amène ses navires, amène ses soldats pour la Palestine, pour protéger Gaza. Non, pour protéger Israël, pas du tout.
Merci beaucoup, Madame Rouni.
Les intérêts américains. Et surtout pour attaquer l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte, elle est vraiment en danger, en grand danger. Aujourd'hui, ça risque qu'on va voir l'apartage de l'Égypte.
Merci infiniment.
La guerre à Gaza, elle a dépassé les Gazaouis. La guerre à Gaza, elle a dépassé les Gazaouis. Aujourd'hui, on affronte les États-Unis, ce n'est pas Israël.
Merci infiniment, Madame Rouni, analyste politique depuis Paris, et à vous aussi, Assar Midani, d'être intervenu pour le débat. Je suis obligée à vous dire au revoir, qui notre émission touche déjà à sa fin. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.
Se retirer du marché russe devient de plus en plus coûteux pour les entreprises européennes. Le quotidien économique britannique Financial Times a publié une analyse révélant que les plus grandes entreprises européennes ont enregistré des pertes directes d'au moins 100 milliards d'euros sur leurs opérations depuis l'opération militaire russe en Ukraine en février 2022. À travers l'étude de rapports annuels et des états financiers pour l'année 2023 de 600 groupes européens, l'enquête montre que 176 entreprises ont connu des dépréciations d'actifs, des charges liées au change et d'autres dépenses ponctuelles à la suite de la vente, de la fermeture ou de la réduction d'activités russes. Le chiffre global n'inclut pas les impacts macroéconomiques indirects de la guerre qui, par la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières et l'accélération des ventes d'armement, ont permis aux entreprises de défense et aux groupes pétroliers et gaziers de connaître des bénéfices élevés. Selon une étude, plus de 50% des 1871 entités détenues par des Européens en Russie avant la guerre opèrent toujours dans le pays, comme l'Italien UniCredit, l'Autrichien Raiffeisen, le Suisse Nestlé ou encore le Britannique Unilever. D'autres études de recherche ont permis d'éclairer la situation pour les entreprises européennes encore bloquées en Russie, comme la liste des prises de position d'entreprises créée par Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l'Université américaine de Yale, ou encore l'étude de l'IMD et de l'Université de Saint-Gall. La liste de Yale tient compte de l'ensemble des activités commerciales en Russie, tandis que la seconde étude ne porte que sur les prises de participation sous forme de filiales, souvent plus coûteuses, à abandonner. Les contractions de la Russie entravent le retrait des entreprises étrangères du marché russe. En réalité, quitter la Russie est une véritable épreuve pour les entreprises européennes. Si les sanctions des pays occidentaux n'ont pas vraiment surpris le Kremlin, puisqu'il s'agit d'une arme que l'Occident emploie fréquemment depuis la guerre russe-géorgienne de 2008, la décision des entreprises privées de se retirer du territoire russe, elle, a réellement bouleversé l'économie du géant eurasien. En effet, une part importante de l'économie russe dépend des actions d'acteurs extérieurs. Une analyse du média d'information Atlantico rappelle que les entreprises occidentales souhaitant se retirer du marché russe ont d'abord cherché des repreneurs pour les actifs. Toutefois, conclure un accord n'est pas une tâche facile dans la mesure où tout retrait de capitaux à l'étranger est entravé par le gouvernement russe. Pourtant, les grandes compagnies ont quitté le territoire malgré les coûts élevés et les pertes importantes. Dès lors, le Kremlin a pris des mesures pour rendre le retrait des entreprises étrangères de son territoire plus complexe. Dans un premier temps, les autorités ont interdit directement les retraites des investisseurs dans un certain nombre d'industries stratégiques, banques et finances, énergie et infrastructures, tout en rendant aussi difficile que possible le rapatriement des bénéfices. Ensuite, le gouvernement est allé plus loin en exigeant des entreprises étrangères qu'elle paie tout retrait d'actifs russes pour une contribution volontaire au budget russe de 10% de sa valeur de marché. Depuis peu, les entreprises occidentales ont l'obligation de vendre leur part à des actifs russes avec une décote de 5% et de payer une taxe de sortie volontaire à la Russie. Alexandra Prokopenko, chercheuse au centre de recherche Carnegie Russia Eurasia, affirme que trouver un acheteur est compliqué pour les entreprises occidentales. Aucun commerce ne peut avoir lieu avec les quelque 6 000 personnes et entreprises figurant sur les différentes listes de sanctions. L'État russe doit en outre donner son accord à la vente et dans certains cas, Poutine lui-même, ce qui peut prendre du temps. Afin d'ajouter de l'huile sur le feu, la Russie a signé en avril dernier un décret conférant à l'État russe le droit de contrôler temporairement les actifs d'entreprises ou d'individus de pays hostiles, y compris les États-Unis et leurs alliés. Ce décret a immédiatement été utilisé par le Kremlin afin de prendre le contrôle des installations détenues par la société finlandaise Fortum et la société allemande Uniper. Le 18 juin 2023, le maître du Kremlin a signé un nouveau décret qui exige que les entreprises qui reprennent des actifs occidentaux en Russie soient entièrement détenues par des nationaux, menaçant les entreprises privées d'exportation. Il a ainsi permis à la Russie de contrôler les actifs locaux des entreprises Danone et Carlsberg AS dès le mois suivant. Dès lors, ces contre-sanctions durcissent les procédures de sortie du marché économique russe pour les acteurs occidentaux. L'analyse du Financial Times rapporte que plus de 2000 entreprises cherchent des moyens de quitter le marché russe, tandis que d'autres agissent comme si la guerre n'avait pas encore éclaté, selon l'étude de Yale. Le rapide retrait de certaines entreprises et le retrait tardif d'autres ne sont pas liés à une question de morale et d'éthique. Selon une étude publiée mi-janvier par l'Université de Saint-Gall et l'IMD Business School de Lausanne, 90% des entreprises possédant encore des participations en Russie ne se sont pas retirées du marché. Il existe plusieurs raisons à cela et peu sont liées à une question de morale et d'éthique. Il y a évidemment la question de la difficile procédure que nous avons mentionnée précédemment. Mais les auteurs suggèrent également la possibilité qu'un grand nombre d'entre elles ne souhaitent pas abandonner leur clientèle ou leur personnel russe. En outre, beaucoup d'entreprises ne sont pas soumises aux sanctions qui s'adaptent à chaque secteur. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques telles que Roche et Novartis n'ont pas l'intention de quitter la Russie, puisque les médicaments sont exemptés de sanctions pour des raisons humanitaires. Néanmoins, les entreprises qui trouvaient des arguments suffisants pour justifier leur activité en Russie au début de l'opération militaire russe en Ukraine sont confrontées à une situation de plus en plus incertaine. Pour Alexandra Prokopenko, elles craignent de plus en plus d'être considérées comme des complices de la guerre de Poutine. La Russie est désormais perçue comme un partenaire économique peu fiable, poussant les acteurs occidentaux à envisager une porte de sortie. Les entreprises ont perdu beaucoup d'argent en quittant la Russie, mais d'autres entreprises qui sont restées ont risqué des pertes plus importantes, a déclaré Nabi Abdoulayev, associé du cabinet de conseil en stratégie Control Risks, cité par le Financial Times. Selon lui, la meilleure stratégie a donc été de couper les liens avec la Russie directement au début de la guerre, car plus tôt vous partez, moins vous perdez. Les entreprises, encore là, feraient mieux de simplement radier l'entreprise. Je ne pense pas que quiconque soit en sécurité, a déclaré Anna Vlasiuk, chercheuse à KSE au Financial Times. We'll be right back.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.